Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Un vent de féminisme qui nous vient de Suisse. 10 jours après les manifestations monstres qui ont vu 500 000 de femmes défiler dans les rues pour demander l'égalité de salaire, mais aussi l'égalité tout court, les choses commencent à bouger du côté de Zurich et de Lausanne. C'est là que Katia Michel a rencontré des femmes en colère et déterminées.
De l'argent, du temps, du respect et l'égalité des chances, la liste des revendications des Suissesses est longue. Et elle dépasse d'ailleurs les seules problématiques du pays, comme l'explique Aude Spong, membre du collectif de la grève des femmes sur TV5 Monde.
L'égalité salariale, c'est seulement la pointe de l'iceberg, à vrai dire. On a des problèmes à tous les niveaux, des problèmes qui touchent les femmes à tous les moments de leur vie. Donc ça part de l'éducation, la façon dont on est vu dans la société, les injonctions qui nous sont envoyées. Et puis sur le marché du travail, le plafond de verre qui nous empêche d'atteindre les niveaux les plus élevés de la hiérarchie, le fait qu'on a, eh bien évidemment, cet écart salarial, mais les problèmes de harcèlement sexiste, le fait que les femmes se retrouvent toujours dans des travaux systématiquement plus précaires, moins rémunérés, ce qui a une répercussion aussi sur leur retraite et qui conduit à des discriminations par après. On a des problèmes au niveau des violences, les violences sexistes, les stéréotypes, les discriminations. Bref, le combat est énorme et il ne s'arrête vraiment pas seulement à la différence salariale.
Les Suissesses ont élaboré un manifeste comprenant 19 revendications concrètes. Plus de moyens pour concilier vie de famille et travail, des places de crèche, des aides publiques, la gratuité de l'avortement, de la contraception. Elles veulent aussi un véritable plan de lutte contre les violences. Selon Amnesty International, en Suisse, une femme sur cinq a déjà été victime d'agressions sexuelles. Le ras-le-bol s'est donc fait visible le 14 juin. Elles étaient près d'un 500 000 dans les rues, en violet, la couleur du mouvement. À Zurich, les militantes ont défilé avec la reproduction géante d'un clitoris tiré sur un chariot. Elles ont aussi bloqué le trafic des trams en plaçant sur les voies des caddies de supermarchés. Une semaine après cette vague violette inédite dans le pays, le monde politique a réagi. Le canton de Vaud a décidé de bannir les publicités sexistes de l'espace public et le Parlement fédéral a voté en faveur de l'introduction de quotas de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Pour la députée verte vaudoise et membre du collectif de la grève des femmes, Léonore Porchet, le mouvement a visiblement porté ses fruits.
Je pense que le travail qu'on mène depuis une année pour construire cette grève porte ses fruits depuis quelques semaines déjà. On a parlé de la pub sexiste au Grand Conseil, la semaine passée c'était mon postulat contre le harcèlement sexuel. Je pense que le combat qui a été mené par des centaines de femmes dans toute la Suisse pour que l'égalité soit à l'agenda politique et médiatique porte ses fruits et ça c'est vraiment déjà une victoire.
Les grandes entreprises devront désormais compter au moins 30% de femmes dans leur conseil d'administration. Mais la loi ne prévoit pas de sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas ce quota. Elles seront simplement invitées à présenter les mesures de promotion mises en place en faveur des femmes. Les militantes y voient une mesure à minima, un petit pas, mais un pas tout de même. Autre avancée en matière d'égalité, les sénateurs se sont prononcés la semaine dernière en faveur d'un congé paternité de 2 semaines. Mais les Suissesses n'ont pas l'intention d'en rester là. Une nouvelle manifestation féministe est déjà annoncée pour le 30 septembre.
Et la question du congé parental pour les pères dont parlait Katia Michel, c'est bien plus qu'un détail. Jusqu'alors, les papas suisses n'avaient le droit qu'à 1 jour de congé. Ils auront le droit à 2 semaines si les députés valident le projet. Pour en parler, on retrouve Jérémy Lange. Bonjour.
Bonjour.
On peut dire que sur ce dossier, la Suisse est très en retard par rapport à ses voisins européens. Comment l'expliquer ?
Eh bien, en fait, la Suisse est en retard sur tout ce qui concerne les questions de genre en général. On l'a vu récemment avec la grève des femmes qui a eu lieu il y a 10 jours ici. La Suisse n'accordait le droit de vote aux femmes qu'en 1971. Dans le canton d'Appenzell, on a même dû attendre 1991. L'avortement n'est légal que depuis 2002 et il a fallu attendre 2005 pour voir les Suissesses obtenir un congé maternité de 14 semaines. C'est donc dire si les femmes en Suisse ont dû batailler pour faire reconnaître leurs droits.
Mais les pères n'ont pas pour autant obtenu de congé paternité.
Et non, puisque jusqu'à aujourd'hui, la loi suisse consacrait un peu l'idée qu'élever un enfant, c'était surtout le rôle de la mère. Quand un homme devient papa, au regard du droit, c'est comme s'il déménageait ou qu'il se mariait. Il a droit à un jour de congé et c'est tout. Une anomalie qu'il fallait donc corriger pour le Conseil des États, c'est l'équivalent du Sénat en France. Alors certains à gauche plaidaient pour 4 semaines de congé directement, un saut difficile à franchir car en face, le gouvernement d'Union ne voulait pas du tout entendre parler de congé paternité inscrit dans la loi, préférant que le congé paternité reste à la discrétion de l'employeur. Berne proposait aussi une amélioration des modes de garde, ce qui a conduit un élu à demander si les ministres ne vivaient tout simplement pas dans un autre siècle.
En tout cas, les entreprises n'ont pas attendu le Parlement, car dans les faits, le congé paternité existe en Suisse.
Eh bien oui, parce que certaines entreprises sont même très généreuses en la matière. Novartis, par exemple, le groupe pharmaceutique va passer de 6 jours à 18 semaines de congé paternité dès le 1er juillet. C'est 12 semaines chez Google Suisse, 8 semaines si vous travaillez chez Procter & Gamble. Les chemins de fer fédéraux accordent 4 semaines au nouveau papa, 2 semaines pour ceux qui travaillent à la Poste ou au Crédit Suisse. Le public s'y met aussi. La Confédération Suisse accorde 10 jours au nouveau papa. Et la semaine dernière, le journal Le Courrier annonçait ici que le canton de Genève avait accordé l'équivalent d'un congé maternité à un fonctionnaire marié à un autre homme et papa de 2 petites filles nées par mère porteuse à l'étranger. Alors tous les employeurs vantent les mérites du congé paternité qui serait bon pour le papa, bon pour la maman et puis bon pour le bébé, mais c'est aussi bon pour l'entreprise. Hein. Dans un pays où le marché de l'emploi est très concurrentiel, où le taux de chômage est très bas, tous les moyens sont bons pour attirer et retenir les talents. Et c'est surtout la preuve que sur ces questions, la société civile en Suisse a évolué, beaucoup plus vite que le politique.
Merci Jérémy Lanche. Existe-t-il un sexisme politique au Royaume-Uni ? Drôle de question dans un pays qui a élu à 2 reprises une femme au plus haut poste, Margaret Thatcher et Theresa May. Un pays dont le chef d'État est une souveraine. Et pourtant, les femmes députées ont lancé une bataille pour la reconnaissance pleine et entière de leur congé maternité. C'est le reportage à Londres de Marie Billon.
Sur le plateau de l'émission matinale de la BBC, la députée travailliste Stella Crissy a décidé de parler de sa vie privée pour dénoncer une injustice. Elle a fait plusieurs fausses couches et aujourd'hui, alors qu'elle est à nouveau enceinte, elle angoisse à l'idée que personne ne la remplacera quand elle sera en congé maternité.
Depuis un mois, je demande aux autorités compétentes au sein du Parlement et en particulier à IPSA, l'organisme qui gère nos budgets, ce qui sera mis en place pour la continuité de mon travail en circonscription. Pour reprendre les dossiers qui sont en cours, les événements et réunions locales dont je suis en charge. J'ai calculé que ces 3 dernières années, j'ai répondu à 133 000 requêtes, en plus du travail que fait mon équipe. Les autorités m'ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas le congé maternité des députés, que rien n'est prévu. Elles ont suggéré que mes collaborateurs me remplacent plutôt que de financer un remplaçant, comme on le ferait pour un généraliste ou même un vicaire.
Les députés sont payés à 100% pendant le congé maternité, contrairement à 90% pendant 52 semaines pour les autres femmes qui travaillent. La première ministre, Theresa May, a demandé à ce que cette question soit étudiée de près. En début d'année, son gouvernement a déjà fait un geste pour aider les députés, hommes ou femmes, ne pouvant pas venir voter pour raison de santé ou familiale. Jusque-là, il y avait un système. En cas d'absence, d'un vote à travers les responsables de la discipline de leur parti, un député absent se mettait d'accord avec un collègue d'un parti opposé pour qu'il n'aille pas voter non plus. Les absences s'annulaient donc mutuellement, mais il y a eu des ratés. La députée libérale Jo Swinson en a été victime, par exemple. En début d'année, elle avait aussi dénoncé une injustice faite aux femmes au Parlement.
C'est honteux que ma collègue Tulip Siddiqui ait été forcée de mettre en danger la santé de son enfant à naître pour pouvoir faire entendre la voix de ses électeurs sur le sujet le plus important de notre temps.
La députée travailliste avait en effet dû retarder son accouchement par césarienne pour être emmenée à la Chambre des communes en fauteuil roulant pour pouvoir voter sur l'accord négocié par Theresa May pour le Brexit. Quelques jours plus tard, Andrea Leadsom, la ministre en charge des relations avec le Parlement, faisait cette annonce.
Je suis ravie de confirmer à cette Chambre qu'un projet de loi sur le vote par procuration en cas de congé maternité ou paternité ou en cas d'adoption a été déposé.
Andrea Leadsom a un bilan controversé. En 2016, elle s'est retirée de la course à Downing Street après avoir dit qu'elle serait une meilleure première ministre que Theresa May parce qu'elle était mère, contrairement à sa rivale. Ce mois-ci, elle a été éliminée au tout début de la course pour prendre la tête du parti. Certains de ses collègues lui auraient dit qu'après le cauchemar May, le parti ne voulait pas de femme première ministre pour lui succéder. Les femmes seraient donc discriminées dans le système politique britannique à tous les niveaux, même à la chambre haute du Parlement, la chambre des Lords, car elles n'ont pas le droit de succéder à leur père, par exemple. En effet, les filles ne peuvent pas hériter de titres et donc de sièges héréditaires qui vont potentiellement avec. Charlotte Carupol a fondé la campagne Daughter's Right pour sa fille de 3 ans, Jemima, qui devra céder sa place à son petit frère.
Mon beau-père est Sir Richard Carupol et quand il mourra, mon mari héritera du titre de baronnet. Mais après lui, le titre ira à mon fils cadet, pas à ma fille aînée. C'est terrible pour moi en tant que maman dans cette situation. Mais pourquoi ma fille n'aurait-elle pas le droit d'hériter juste parce que c'est une fille ?
Un comble dans un pays qui a connu plusieurs souveraines, dont l'actuelle Elisabeth II.
Italie, depuis l'arrivée au pouvoir de la Ligue de Matteo Salvini, les féministes veulent faire valoir leur droit à l'avortement. La loi date de 1978, mais elle est régulièrement remise en cause. Dernier exemple en date, le conseil régional de la ville de Florence, majoritairement de centre-gauche, a décidé de financer des associations anti-avortement. Les explications de Cécile Debarge.
Fin mars, puis au mois de mai et enfin mi-juin, à 3 reprises en 4 mois, les féministes du mouvement Non Una Di Meno de la région Toscane, dans le centre de l'Italie, ont interrompu les travaux du conseil régional. 2 fois, elles ont même occupé les locaux. Elles le promettent, elles continueront tant qu'il le faudra. La raison de leur colère, c'est la signature d'un accord entre le Conseil régional de Toscane, d'habitude l'un des plus en avance sur les droits des femmes en Italie, et le Forum Toscan des associations des droits de la famille. Pendant 3 ans, cette association recevra un total de 195 000 euros et elle pourra être impliquée dans les activités des cabinets médicaux de la région qui s'occupent de contraception, vie sexuelle, accompagnement à la maternité, mais aussi violences faites aux femmes. Ce sont les équivalents du planning familial en France. Or, ce forum toscan des associations des droits de la famille se positionne clairement contre la loi de 1978 et l'avortement, et il est connu en Italie pour appartenir au mouvement pour la vie. La décision du conseil régional de centre-gauche a donc fortement surpris, mais aussi choqué, les féministes toscanes, qui dénoncent au même moment la baisse des fonds alloués aux cabinets médicaux chargés notamment de distribuer des moyens de contraception gratuits. Le sujet est d'autant plus délicat que les anti-avortements ne cessent d'étendre leur influence en Italie. Au sein du corps médical, 2 gynécologues sur 3 sont objecteurs de conscience, ce qui veut dire qu'ils peuvent refuser de pratiquer des IVG pour raisons religieuses. C'est un record en Europe. Au niveau institutionnel, ensuite, les anti-avortements ont un allié avec la Ligue de Matteo Salvini au gouvernement. Fin mars, Vérone, dans le nord du pays, a accueilli le Congrès mondial des familles à l'initiative d'associations anti-avortement aux États-Unis. L'événement qui a rassemblé les franges les plus radicales du catholicisme a été notamment parrainé par Lorenzo Fontana, le ministre italien de la famille. Là encore, les femmes, réunies sous la bannière de Non Una Di Meno, ont organisé une contre-manifestation pour dénoncer le soutien du gouvernement aux détracteurs de la loi sur l'avortement.
Nourrir la planète sans polluer plus dans les décennies à venir, l'enjeu est de taille et l'une des entreprises phares dans ce domaine à l'échelle mondiale est allemande. La société Klaas a plus de 100 ans, mais elle a su prendre le tournant des nouvelles technologies. Julien Michossi s'est rendu sur leur site historique dans l'ouest de l'Allemagne.
Nous nous trouvons devant notre modèle phare, la moissonneuse-batteuse Lexion 780. Pour faire simple, c'est une usine montée sur roues.
Les yeux de Wolfram Eberhardt, l'un des responsables de classe, sont remplis de fierté à la vue de cette impressionnante machine agricole. Dans un hall qui ressemble plus à un salon de voitures de luxe, sont exposés les produits de pointe de l'entreprise.
Donc on est maintenant dans cette moissonneuse-batteuse. Qu'est-ce qui nous montre ici que la révolution numérique est en marche ?
Cette machine peut déjà, depuis une dizaine d'années, se déplacer de manière autonome dans un champ avec une précision de 2 cm. Mais désormais, elle est aussi capable de travailler toujours plus en réseau. Elle génère une quantité incroyable de données sur ce qui est récolté, des données qui permettent de mieux planifier l'année à venir. Si je sais avec exactitude ce que j'ai récolté et où précisément, alors je peux augmenter mon rendement l'année suivante.
Un modèle bourré de technologie dont le prix approche le demi-million d'euros. Un peu plus loin, Wolfram Eberhardt s'arrête devant un imposant tracteur doté à l'avant de capteurs.
Nous avons là le parfait exemple de cette révolution numérique. C'est un capteur d'azote qui est capable de mesurer les besoins en engrais de chaque plante. Ces données enregistrées à l'avant du tracteur sont transmises à l'arrière de l'engin, puis sont réceptionnées par l'épandeur d'engrais, le tout sans aucune intervention humaine. L'épandeur déverse ensuite la quantité exacte d'engrais nécessaire à chaque plante. Cela permet d'optimiser au maximum l'usage d'engrais.
Changement de décor et retour à l'ancien monde. Nous sommes à présent dans l'usine de montage. Longue de près d'un kilomètre, il sort d'ici toutes sortes de machines agricoles qui seront exportées dans le monde entier. Elles constituent encore le cœur historique de l'entreprise, créée il y a plus de 100 ans et qui n'a cependant pas hésité à prendre le virage numérique avec ses quelques 11 000 salariés. À une cinquantaine de mètres de l'usine se dresse la Greenhouse, le centre de recherche de l'entreprise. Canapé, espace de travail ouvert et tenue décontractée, ici l'ambiance fait plus penser à celle des startups berlinoises qu'à une entreprise centenaire. Kai Valach en est le directeur du développement.
Cette entreprise a une histoire riche de plus d'un siècle. Nous avons eu le temps de mettre en place des structures qui nous ont permis de perdurer. Mais nous faisons face aujourd'hui à de nouveaux défis. Notre environnement, les technologies, les attentes des clients évoluent à une vitesse bien supérieure qu'il y a encore quelques années. Pour développer un nouveau logiciel qui apporte une vraie solution à nos clients, nous disposons de bien moins de temps que nous avions dans le passé pour mettre au point, par exemple, une nouvelle machine agricole. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller plus vite pour obtenir plus rapidement des résultats.
Stéphane, encore jeune étudiant, travaille lui sur des solutions robotiques. Il n'avait jamais imaginé pouvoir s'épanouir autant dans le secteur agricole.
Travailler ici, c'est passionnant et je jouis d'une très grande liberté pour utiliser et mettre au point de nouvelles technologies. J'ai presque envie de dire sans contrainte. Je me suis lancé sans subir de pression hiérarchique. Au contraire, j'ai senti une grande confiance autour de moi pour mon projet. C'est l'idéal quand on est jeune, pouvoir travailler sur des technologies du futur sans carcan.
Mais cette révolution numérique bouscule aussi la culture de l'entreprise. Olga Valach est en charge de projets associés à la réalité virtuelle.
Quand nous présentons une innovation grâce à la réalité virtuelle, les ingénieurs de la chaîne de montage viennent ici et essaient quelque chose de nouveau. Cela nous permet aussi de confronter nos travaux aux besoins de l'usine. Et c'est primordial de garder le contact avec le cœur de métier de l'entreprise. Cette révolution implique aussi de créer de nouvelles formes de coopération et de travail.
Avec un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros, Classe fait partie des leaders mondiaux. Et pour ses dirigeants, le secteur agricole n'a pas le choix s'il veut réussir à relever les défis posé par la démographie galopante et le changement climatique, les nouvelles technologies sont bel et bien devenues incontournables.
Un reportage réalisé avec le soutien de la Direction de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission européenne. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.